France Inter.
Bonsoir ma chère Charline, bonsoir à tous. Au Caire, de profonds désaccords mettent en péril l'espoir d'une trêve des combats dans la bande de Gaza. Échec de la médiation, donc nous verrons pourquoi avec Michel Paul en direct de Jérusalem. Nous irons en Allemagne où un rassemblement se tient ce soir contre les violences envers la classe politique. Aujourd'hui, un jeune de 17 ans s'est rendu à la police. Il a reconnu être l'un des agresseurs qui a envoyé un eurodéputé à l'hôpital vendredi. À la une ce soir également, les Ouïghours de France qui prennent comme une gifle la visite d'État à Paris du président chinois Xi Jinping. Il a atterri cet après-midi à Orly. Nous irons à Nanterre où la reconstitution continue depuis ce matin toute la journée pour tenter de comprendre ce qui a conduit le policier à tuer le jeune Naël il y a plus de 10 mois. En rugby, Toulouse s'est offert un billet pour la finale de la Champions Cup. Ce sera le 25 mai. Les Anglais ont battu cet après-midi. Les Toulousains ont battu cet après-midi les Anglais du Hearts Queens à 38 à 26. Et puis le temps de demain, lundi, de Céline Dacosta, ce sera encore pluvieux.
Oui, surtout sur l'est du pays, cette fois-ci où les orages seront encore d'actualité.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes.
France Inter.
Au Caire, donc, les divergences étaient trop fortes pour finaliser une trêve dans la bande de Gaza. Les négociateurs du Hamas préfèrent rentrer à Doha. D'ailleurs, le chef de la CIA se rend lui aussi au Qatar pour discuter de la suite des négociations. On va tenter de comprendre ce qui bloque et avec quelles conséquences. Avec vous, Michel Paul, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Vous êtes en direct de Jérusalem. Profonde divergence, notamment autour d'un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza.
Oui, absolument. Et accepter l'accord tel que nous le proposons, ou alors préparez-vous à l'attaque, c'est l'ultimatum qui a été lancé ce soir par Israël au Hamas. On peut dire que cette séquence de pourparlers au Caire est terminée avec une dernière tentative de conciliation qui est menée en ce moment même par le chef de la CIA, William Burns. Les familles des otages fulminent. Elles affirment que le premier ministre Netanyahou a réussi la mission que lui avait imposée l'extrême droite de sa coalition, torpiller tout accord de trêve et de libération de leurs proches. Pas d'accord donc, mais plutôt une escalade avec le tir sans précédent ces dernières semaines d'une salve de roquettes sur Kerem Shalom. Résultat, le point de passage de l'aide humanitaire pour Gaza est désormais fermé jusqu'à nouvel ordre. L'armée israélienne, selon le ministre de la Défense, Yoav Gallant, s'apprête désormais à entrer en force à Rafah.
Et autre sujet de tension aujourd'hui, ça concerne la chaîne Al Jazeera qui a été créée à Doha au Qatar. Eh bien, Benjamin Netanyahou a décidé de fermer ses bureaux en Israël.
C'est un autre moyen de pression sur le Hamas. Israël s'en prend au Qatar en fermant les bureaux de la chaîne Al Jazeera en Israël. Une opération qui a été menée tambour battant. Le gouvernement a voté la fermeture. Le ministre de l'Information a, dans la foulée, signé le décret. Et la police est venue aussitôt saisir le matériel de la station à Jérusalem-Est. Mais le décret doit être renouvelé tous les 45 jours. Et la Cour suprême israélienne doit examiner un recours de l'Association israélienne des droits civiques pour enfreinte à la liberté de la presse. Le dernier mot, Eric, n'a pas encore été dit sur cette affaire.
Michel Paul, donc, en direct de Jérusalem. Et puis, dans l'après-midi, Emmanuel Macron a encouragé le Premier ministre israélien Netanyahou à mener à bien, je cite, les négociations avec le Hamas. C'est sa première tournée en Europe depuis 5 ans. Le président chinois est arrivé en France pour une visite d'État qui commencera officiellement demain. La présence de Xi Jinping, une présence que les Ouïghours de France prennent comme une gifle, eux qui considèrent le président chinois comme leur bourreau. Les Ouïghours rappellent que depuis 2017, plus d'un million d'entre eux, principalement musulmans, ont été internés dans des camps de rééducation. Eh bien, un rassemblement de Ouïghours s'est tenu à Paris, aujourd'hui, place de la Madeleine. Une cinquantaine de Ouïghours de France, sous étroite surveillance chinoise, à peine discrète d'ailleurs. C'était cet après-midi à Paris, une surveillance chinoise qui ne surprend plus Dilmur Rehan, la présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe.
C'est notre quotidien, même étant français. Nous sommes en fait surveillés, effectivement, même en France, étant donné qu'ils prennent en otage nos familles. En fait, ils appellent souvent les membres de la diaspora française pour les menacer, pour les intimider, pour avoir des informations, etc. L'Europe, et la France en particulier, ont sanctionné sévèrement la Russie de Poutine. Et Poutine n'est pas bienvenu. Dans ce cas-là, pourquoi Xi Jinping serait bienvenu? Alors que Xi Jinping est reconnu comme responsable du génocide ouïghour génocide ouïghour reconnu par l'Assemblée nationale française, y compris par le groupe parlementaire de notre président. Dans ce cas-là, comment notre président peut justifier qu'il reçoit, qu'il donne de l'honneur aux bourreaux du peuple ouïghour? Donc pour notre président, la vie des Ouïghours ne va rien face au yuan chinois.
Et voilà, propos recueillis par Béatrice Duguay sur ce thème des droits de l'homme en Chine. Outre les Ouïghours, une marche de Tibétains était organisée également à Paris aujourd'hui, place de la République. Enfin, à propos de Xi Jinping, son parcours, son histoire personnelle est méconnue. Eh bien, je vous renvoie au podcast de ma consoeur Dominique André, ancienne correspondante de Radio France durant 9 ans à Pékin. Podcast en 9 épisodes sur la vie de Xi Jinping, donc intitulé, le podcast intitulé « Le prince rouge ». À Dresde, en Allemagne, un adolescent de 17 ans s'est rendu aux autorités allemandes. Il a reconnu être l'un des auteurs de la violente agression vendredi contre un eurodéputé du SPD. Depuis plusieurs semaines, une série d'agressions d'hommes et de femmes politiques inquiète les Allemands. Bonsoir Sébastien Baer.
Bonsoir.
En direct de Berlin, inquiétude qui a généré ce rassemblement ce soir. Rassemblement contre la violence. Vous êtes rassemblement devant la porte de Brandebourg.
Oui, c'est ça, Eric. Il y a des jeunes qui portent des panneaux « Les nazis dehors », des familles avec des poussettes et des drapeaux de l'Union européenne, des retraités qui demandent l'interdiction de l'AFD, des membres du collectif « Les grands-mères contre l'extrême droite ». Un rassemblement massif avec peut-être 500, 600 personnes. Rassemblement qui traduit bien l'inquiétude qui monte face à la multiplication des violences contre les élus, contre les militants. Ces deux Berlinoises, Renate et Brigitte, étaient parmi les premières à arriver porte de Brandebourg.
J'étais effrayée de ça. L'attaque, c'est affreux. Ça m'a choqué. On est quand même un pays libre.
Attaquer des hommes et femmes politiques officiels, c'est un nouveau pas de violence. Il faut se défendre contre ces attaques. Il faut protéger la démocratie.
Certains brandissent aussi les drapeaux du SPD ou du Parti écologiste dont les représentants ont été agressés. Les Verts réclament d'ailleurs davantage de protection pour leurs candidats aux élections. Depuis le début de l'année, la police de la région de Saxe recense 112 délits liés à des motivations politiques. Magdalena Hess, membre du groupe qui a appelé à ce rassemblement berlinois, s'inquiète de voir la campagne électorale se durcir.
Il y a énormément d'agressions, y compris verbales. La haine en ligne a augmenté, la haine dans la rue a augmenté et il y a beaucoup de problèmes de sécurité. Être visible représente une forme de protection quand ces attaques se produisent. La pire chose à faire, c'est de nous taire et de rendre tout ça invisible.
Ce rassemblement, c'est donc la réponse de la démocratie à cette vague d'agression. La réponse politique viendra, elle, après-demain. Les ministres de l'Intérieur des 16 régions allemandes sont convoqués à Berlin pour trouver enfin un moyen de contrer ces violences.
Sébastien Baer, devant la porte de Brandebourg, donc à Berlin. Une course contre la montre est engagée au Brésil, dans le sud du pays, pour faire face aux inondations monstres qui ont dévasté l'état du Rio Grande do Sul. Il y a au moins 70 morts, 100 personnes portées disparues et 80 000 autres chassés de leurs habitations. La pluie au Brésil et puis des incendies de forêt au nord du Japon où il fait anormalement chaud. Plus de 400 habitants d'une région montagneuse ont été appelés aujourd'hui à quitter les lieux alors qu'un feu de forêt géant continue de s'étendre et menace les habitations japonaises. Tenter de comprendre comment le policier en est arrivé à tuer le jeune Naël il y a plus de 10 mois à Nanterre, près de Paris, lors de son interpellation à bord d'une voiture. Une reconstitution est organisée depuis 11h ce matin à Nanterre, donc, avec tous les protagonistes présents ce jour-là. Reconstitution nécessaire car sur les faits, les versions divergent. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Depuis ce matin, le centre de Nanterre est verrouillé pour permettre cette journée de reconstitution.
Oui, car même si l'essentiel de la scène a été capté par le téléphone portable d'une habitante, vidéo qui a ensuite été largement diffusée sur les réseaux sociaux, ces images ne disent pas tout. Le flou et donc la contestation persiste, notamment sur les propos attribués aux policiers par les témoins directs de la scène. « Je vais te mettre une balle dans la tête » ou « shoot-le », des éléments contestés par l'auteur du tir, policier de 38 ans, et son collègue qui se tenait à ses côtés. Ce sont leurs versions qui ont été entendues en dernier au cours de cette reconstitution qui est en train de s'achever pour sa partie plus matérielle, si on on peut dire. Restera ensuite la phase de relecture des procès-verbaux, phase au cours de laquelle avocats des deux parties restent très mobilisés. Cela, elle devrait durer environ 2 heures encore. C'est donc une très longue journée de reconstitution qui s'achèvera dans quelques heures. Moment crucial pour les investigations autour de ce drame, qui aura mobilisé un dispositif de sécurité très conséquent, à la fois pour sanctuariser le large périmètre interdit à toute circulation et par crainte d'éventuels débordements, les émeutes déclenchées par la mort de Naël restant dans toutes les mémoires. Mais l'ambiance depuis ce matin, il faut le dire, est particulièrement calme ici dans le quartier de la préfecture à Nanterre, si ce n'est quelques signes de mécontentement ici ou là des habitants contraints à de larges détours pour contourner ce périmètre de sécurité.
Avec Romain Luquin, c'est la technique. Charlotte Piret donc en direct de Nanterre. Une enquête est ouverte à Cherbourg après l'incendie la nuit dernière de 9 véhicules garés en face de la mosquée de la ville, cette même mosquée de Cherbourg qui avait déjà été la cible d'un tir de fusil de chasse le mois dernier et de tags islamophobes en novembre. Le ministre délégué au logement veut renforcer les sanctions contre les familles d'enfants délinquants qui occupent un logement social. La question sera débattue dans le projet de loi sur le logement, d'abord au Sénat vers la mi-juin, avant d'aller à l'Assemblée à la rentrée prochaine. Guillaume Kasbarian, le ministre délégué en charge du logement, était l'invité de Karine Bécard à la mi-journée sur France Inter.
La question peut être posée de se dire, évaluons aussi les incivilités, les délits et les crimes. Il y a d'ailleurs des familles qui aujourd'hui sont condamnées par la justice pour défaut et pour incivilité et pour crime et pour délit. Donc ce lien-là est tout à fait possible. Aujourd'hui déjà, en réalité, il y a déjà des dispositions qui existent, parce que c'est pas quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il faut les renforcer dans le projet de loi ? Moi, j'y suis ouvert. Le gouvernement et les parlementaires pourraient aller plus loin sur le sujet.
En déposant un
parce que, mais bien sûr, parce que, mais attendez, il n'est pas normal que des personnes qui vivent dans le parc social, qui vivent dans les logements sociaux, soient embêtées, pour le dire poliment, par certains qui ne respectent pas les lois et font de la délinquance.
Une série de manifestations aujourd'hui dans 50 villes de France contre la transphobie, à l'appel de 800 associations et collectifs qui estiment que le droit de disposer librement de son corps est menacé pour les personnes trans. Et l'objet de toutes leurs inquiétudes, c'est un récent rapport des sénateurs LR, un rapport qui préconise d'interdire aux mineurs l'accès à la chirurgie et aux programmes hormonaux. À Paris, plusieurs milliers de personnes étaient réunies, place de la République. Reportage de Benjamin Illy.
Qu'est-ce qu'il y a écrit sur votre pancarte ?
Bah, comme vous le voyez, père aimant, pas défaillant. J'ai mon fils, oui, en transition.
Voilà, on a eu la chance que notre enfant nous en parle.
Un papa, une maman, Marina et Emmanuel, leur fils Charlie a 17 ans. Sa transition est un parcours long, réfléchi, encadré.
Donc depuis l'âge de 11 ans, il est suivi toutes les semaines par une psychologue. Et ensuite, effectivement, il y a cette entente collégiale, médicale, pour pouvoir commencer l'hormonothérapie à 16 ans et demi. Aujourd'hui, mon fils avance dans sa transition, je le vois s'épanouir de nouveau, se sociabiliser. La souffrance, elle est issue de la transphobie, elle n'est pas issue de la transidentité. On ne donne pas des bloqueurs de puberté ou un traitement hormonal comme un bonbon à nos enfants. Et penser que c'est ce que nous faisons, c'est très clairement une injure à nous parents. Merci de vous inquiéter de nos enfants, mais pas une proposition de loi qui ressemble plus à une idéologie qu'à une loi.
La proposition de loi LR, issue du rapport sur la transidentification des mineurs, son appellation officielle, doit être examinée le 28 mai en séance publique.
De Benjamin Illy, place de la République, cet après-midi à Paris donc. Lui a été le premier présentateur de l'émission des chiffres et des lettres. Patrice Lafont dit son émotion de voir disparaître cette émission culte qui ne sera donc pas reconduite à la rentrée après 50 années de diffusion, 52 ans précisément. Ça n'arrivera plus jamais à la télévision. Une ère se termine, comme mente Patrice Lafont. L'émission laisse sur le carreau de nombreux téléspectateurs, mais aussi des milliers d'inscrits dans les clubs locaux des chiffres et des lettres. Exemple en Indre-et-Loire, le club de la commune de La Riche, créé il y a 38 ans. Sa présidente, Claude Cellier, très déçue par cette disparition annoncée de l'émission.
Je pense que quand je vais la porter aux personnes avec qui je joue, elles vont être catastrophées. Disons que c'est mon enfance. Voilà, je regardais l'émission enfant avec ma mère et moi j'ai accroché tout de suite. J'ai beaucoup aimé. C'est minable. Voilà. Bah, ce qui m'a fait aimer ça, c'est les lettres. J'ai toujours aimé les lettres. Et surtout, améliorer son orthographe. pouvoir écrire correctement, apprendre aussi les définitions de mots que l'on ne connaît pas systématiquement, comme des noms d'oiseaux, calao, ou alors d'autres noms, kumquat, womba, enfin des mots que l'on ne connaît pas. C'est enrichissant. On apprend beaucoup de mots, tout simplement.
Voilà, la disparition des chiffres et des lettres. L'émission sera remplacée le week-end par l'émission Le Jeu des 1000 euros de Nicolas Stoufflet. Un mot de rugby, la Champions Cup. Il y a un peu plus d'une heure, Toulouse, champion de France en titre, s'est offert un billet pour la finale. Ce sera le 25 mai face aux Irlandais du Leinster. Cet après-midi, les Toulousains se sont imposés face aux Anglais du Hull Queens, 38 à 26. Le temps.
La météo avec le Boom Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On va démarrer la semaine demain un peu comme on l'a terminé, hein, sous les nuages et sous la pluie.
Oui, c'est ça, avec les perturbations d'aujourd'hui qui vont se réunir demain sur un axe Occitanie-Nord-Est. On aura des orages qui vont se développer dès le matin sur le Sud-Est avec des averses parfois fortes. De la neige, encore un petit peu de neige sur les Pyrénées et les Alpes du Nord au-dessus de 2200 mètres. Pour les Alpes-Maritimes et la Corse, là on devrait rester au sec avec un soleil bien voilé. Plus à l'ouest de l'Aquitaine, au centre et en Bretagne, on aura quelques éclaircies le matin, mais les nuages vont vite reprendre le dessus. Dans l'après-midi, des orages vont même se réactiver sur le quart nord-ouest. Pour toutes les autres régions, ce sera un ciel de traîne classique. Vous savez, cette alternance de nuages, d'éclaircies et de faibles averses.
Les températures?
Encore assez douces le matin. La moyenne ira de 7 à 13 degrés, un petit peu comme aujourd'hui, mais l'ambiance sera plus fraîche que ces derniers jours l'après-midi. 14 à 18 degrés, un petit peu plus près de la Méditerranée, où on ira jusqu'à 21 degrés, jusqu'à 25 degrés pour la Corse.
Prévision de Céline Dacosta.